Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui dans Au fil des pages, nous allons feuilleter ensemble les grands discours de la Révolution. En effet, après avoir fait paraître les grands discours de la Troisième République en deux volumes, le premier allant de Victor Hugo à Clémenceau et le second de Clémenceau à Léon Blum, les éditions Armand Collin étoffent leur collection d'histoires parlementaires d'un nouveau volume dont nous parlons aujourd'hui, intitulé « Les grands discours parlementaires de la Révolution ». Cet ouvrage est d'ailleurs préfacé par M. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, et je vous laisse écouter ce qu'il écrit.
Comment ne pas être ému à la lecture des discussions qui conduisirent à l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la disparition du système féodal et à la première abolition de l'esclavage? Comment ne pas être frappé par la capacité de conviction de Danton ou de Vergniaud lorsqu'il s'agit pour la nation de se rassembler pour défendre ses tout nouveaux idéaux face au péril extérieur? Comment ne pas être étonné de la modernité de Robin défendant l'instauration du divorce et la laïcisation de l'état civil, de Boissy d'Anglas demandant la liberté de tous les cultes et la séparation de l'Église et de l'État, ou encore de Condorcet proposant l'instauration d'un système d'instruction nationale? Le choix des textes n'élude en rien les aspects les plus dramatiques de la période, les rivalités idéologiques et personnelles, l'intolérance politique et religieuse qui conduisirent beaucoup de ces orateurs à devenir les victimes d'une vague de répression politique sans précédent. Ce recueil est un hommage à ces hommes courageux, pétris de culture antique, qui mirent leur immense talent oratoire au service de l'invention de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
C'est ainsi que M. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, présente cet ouvrage « Les grands discours parlementaires de la Révolution », c'est-à-dire de Mirabeau à Robespierre. Cet ouvrage regroupe en effet 43 discours prononcés durant la période révolutionnaire, en gros de 1789 à 1795, prononcés d'ailleurs par les hommes célèbres et les plus célèbres de l'époque en matière politique, l'abbé Sieyès, Robespierre, Mirabeau, Talleyrand-Périgord, l'abbé Grégoire, Condorcet, Danton, Saint-Just, Chénier, pour ne citer que quelques-uns de ces maîtres de l'éloquence politique parmi les plus célèbres. Si l'on considère en effet que les discours parlementaires de la Révolution commencent en 1789, que se passe-t-il en 1789? En vérité, la parole, longtemps contenue, se libère. Les orateurs s'improvisent, carrefours et jardins publics retentissent de mots séditieux, de mots violents, de mots révolutionnaires. Et surtout, s'ouvre désormais à un exercice inédit jusqu'à présent, l'éloquence politique. Pour la première fois, une Assemblée nationale offre une tribune à des élus qui ont décidé, à l'appel de la France, de recomposer un régime à bout de souffle et de donner au pays une constitution fondée sur la liberté, le respect des droits de l'homme et le partage des responsabilités. Alors, dès le début, les ténors se distinguent. Ils s'emparent de la chaire, subjuguent leurs collègues et leur voix, amplifiée d'ailleurs par les journaux, résonne dans toute l'Europe. Ils inventent, pourrait-on dire, une nouvelle rhétorique persuasive et séduisante, car il est nécessaire de plaire et il est encore plus urgent de convaincre. Les débats, souvent âpres, restent néanmoins courtois. La civilité du siècle interdit à l'époque les excès et réprouve les injures. On préfère les arguments et la dialectique. Donc on peut dire que les deux premières législatures, ne connaissent guère les écarts de langue et les propos calomnieux. La tribune demeure un lieu de démonstration. Mais mais l'élection de la Convention, après la chute de la monarchie constitutionnelle, redistribue les cartes. Et l'Assemblée devient alors une arène sanglante, et l'éloquence change de nature. Il n'est plus question de ravir l'auditoire par un discours discipliné et magique, il est question maintenant de réfuter habilement l'adversaire. Désormais, la fureur et la peur induisent la violence et le discours devient une arme de persécution et d'élimination physique. Alors évidemment, après Thermidor, le calme reviendra, mais bien vite, avec la résignation, s'installera de nouveau le silence. Alors, parmi les grands orateurs que j'ai cités tout à l'heure et qui figurent dans ce recueil, les grands maître de l'éloquence politique, certains étaient académiciens, et notamment Condorcet. Condorcet qui était à la fois mathématicien et homme de lettres, Condorcet que nous saluons puisque sa statue est juste au bas de notre studio de radio. Condorcet avait été élu en 1781 à l'Académie française et on sait qu'il finira sur l'échafaud. Alors, pour vous donner un exemple de ces discours que vous trouvez dans cet ouvrage, voici, dans la séance parlementaire du 21 avril 1792, les parlementaires entendent le rapport de Condorcet. Le marquis de Condorcet propose une réorganisation de l'école et des enseignements. Il voudrait changer l'instruction publique. Il prône, et c'est d'ailleurs une novation à l'époque, 5 degrés d'instruction: école primaire, école secondaire, institut, lycée et la Société nationale des sciences et des arts. L'enseignement élémentaire sera universel et gratuit. Le discours de Condorcet fut très applaudi. Il était très long et d'une grande précision et il tenait plus de l'exposé que du discours politique enflammé. Je vous propose donc d'en entendre un extrait.
Messieurs, offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'en rendre et de remplir leurs devoirs. Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquels il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but d'une instruction nationale. Et sous ce point de vue, elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice. Diriger l'enseignement de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent. Qu'un plus grand nombre d'hommes deviennent capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la société et que les progrès toujours croissants des Lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens, de bonheur individuel et de prospérité commune. Cultiver enfin dans chaque génération les facultés physiques, intellectuelles et morales et par là contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée, tel doit être encore l'objet de l'instruction. Et c'est pour la puissance publique un devoir imposé par l'intérêt commun de la société, par celui de l'humanité tout entière. Nous avons pensé que dans ce plan d'organisation générale, notre premier devoir devait être de rendre, d'un côté, l'éducation aussi égale, aussi universelle, de l'autre, aussi complète que les circonstances pouvaient le permettre, qu'il fallait donner à tous également l'instruction qu'il est possible d'étendre sur tous, mais ne refuser à aucune portion des citoyens l'instruction plus élevée qu'il est impossible de faire partager à la masse entière des individus, établir l'une parce qu'elle est utile à ceux qui la reçoivent et l'autre parce qu'elle l'est à ceux-mêmes qui ne la reçoivent pas. La première condition de toute instruction étant de n'enseigner que des vérités, les établissements que la puissance publique y consacre doivent être aussi indépendants qu'il est possible de toute autorité politique. Nous avons observé enfin que l'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles, qu'elle devait embrasser tous les âges, qu'il n'y en avait aucun où il ne fût utile et possible d'apprendre, et que cette seconde instruction est d'autant plus nécessaire que celle de l'enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. C'est là même une des causes de l'ignorance où les classes pauvres de la société sont aujourd'hui plongées. La possibilité de recevoir une première instruction leur manquait encore moins que celle d'en conserver les avantages. Nous n'avons pas voulu qu'un seul homme dans l'Empire pût dire désormais « La loi m'assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m'entoure. On m'a bien appris dans mon enfance que j'avais besoin de savoir, mais forcé de travailler pour vivre, ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m'en reste que la douleur de sentir dans mon ignorance, non la volonté de nature, mais la justice de la société. Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres « La fortune de vos parents n'a pu vous procurer que les connaissances les plus indispensables, mais on vous assure les moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez les développer et ils ne seront perdus ni pour vous ni pour la patrie. » Ainsi, l'instruction doit être universelle, c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l'égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire et le temps plus ou moins long que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes dans tous les âges de la vie la facilité de conserver leurs connaissances et d'en acquérir de nouvelles. Il importe à la prospérité publique de donner aux enfants des classes pauvres, qui sont les plus nombreuses, la possibilité de développer leurs talents. C'est un moyen non seulement d'assurer à la patrie plus de citoyens en état de servir, aux sciences plus d'hommes capables de contribuer à leur progrès, mais encore de diminuer cette inégalité qui naît de la différence des fortunes, de mêler entre elles les classes que cette différence tend à séparer. L'ordre de la nature n'établit dans la société d'autres inégalités que celles de l'instruction et de la richesse. Et en étendant l'instruction, vous affaiblirez à la fois les effets de ces deux causes de distinction. L'avantage de l'instruction, moins exclusivement réuni à celui de l'opulence, deviendra moins sensible et ne pourra plus être dangereux. Celui de naître riche sera balancé par l'égalité, par la supériorité même des lumières que doivent naturellement obtenir ceux qui ont un motif de plus d'en acquérir.
Fernand Guillot lisait des extraits du discours sur l'instruction nationale de Condorcet. Condorcet a prononcé ce discours en avril 1792. Peut-être n'est-il pas inutile de préciser qu'à la veille de la Révolution, on estime que 71% des hommes et 44% des femmes en France savaient signer de leur nom, simplement, en tout cas dans la moitié nord du pays, et seulement 27% des hommes et 12% des femmes dans le sud. Vous voyez qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr, dans l'Ancien Régime, il y avait des universités, il y avait de nombreux collèges et aussi des petites écoles, mais l'obligation scolaire n'existant pas, on y allait ou on n'y allait pas. Donc, ce qui fait que les grandes idées de Condorcet ont eu, quand il a prononcé ce discours, beaucoup de succès. Mais il faudra attendre en 1793, la fin de 1793, pour que la Convention adopte la loi rendant obligatoire l'instruction publique, obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 8 ans. Alors, cet extrait que vous venez d'entendre est donc tiré de ce bel album « Les grands discours parlementaires de la Révolution » publié par les éditions Armand Collin. Cet ouvrage est d'ailleurs extrêmement bien présenté, il faut le dire, bien travaillé par celui qui en a la charge, car avant chaque discours, il a pris le soin de faire une présentation, de resituer le contexte de façon à ce que nous, lecteurs, nous puissions mieux comprendre les arguments développés par chaque orateur. Donc la personne chargée de présenter ces textes, c'est M. Guy Chaussinant-Nogaret, directeur d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés surtout au siècle des Lumières et qui a publié récemment une biographie du cardinal Dubois et qui est parue chez Perrin et qui a obtenu le grand prix de la biographie de l'Académie française. Je vous rappelle les références de l'ouvrage dont nous parlions aujourd'hui dans Au fil des pages, Les grands discours parlementaires de la Révolution de Mirabeau à Robespierre, avec une préface de M. Jean-Louis Debré, publié aux éditions Armand Collin. Merci de votre attention, à bientôt pour une autre émission d'Au fil des pages et merci de votre fidélité à Canal Académie.